Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous avons vu la semaine dernière quel fut l'impact de la culture romaine sur la conception grecque de la païdéia et comment les besoins d'un État de plus en plus bureaucratique ont conduit à l'ébranler, à la modifier, en prenant une sorte de culture de fonctionnaire, pour utiliser une expression que d'autres avant moi ont utilisée. Alors je voudrais voir aujourd'hui la façon dont les partisans de cette païdéia classique, de cette éducation classique, ont réagi face à une évolution dans laquelle ils ont vu la maladie généralisée d'une jeunesse en proie à l'appât du gain et prête à trahir l'idéal de l'hellénisme, comme le dit clairement Grégoire de Nice dans une lettre à Libanios, écrite vers 380 au sujet d'un élève, un certain Cunégios, qui a abandonné l'école de la rhétorique grecque, hein, les logoi, les discours. Alors, Grégoire a beau être chrétien, il n'en reste pas moins fidèle à l'esprit de la culture grecque traditionnelle. Il a enseigné d'ailleurs lui-même la rhétorique. Alors voici le texte. Hein. Certains commettent la faute d'abandonner la langue grecque pour la langue barbare. Évidemment, derrière cette langue barbare, il faut voir le latin. Se transformant en soldat stipendié et préférant l'anone militaire, c'est-à-dire les impôts prélevés pour l'entretien de l'armée, préférant l'anone militaire à la gloire de l'éloquence, et on retrouve le motif de la culture désintéressée par opposition à la culture technique intéressée qui a servi l'homme libre à un maître. Il continue en disant « Je souhaite que Cunégios, donc cet élève, soit aussi éloigné que possible de cette maladie commune qui a saisi la jeunesse d'aujourd'hui et qu'il accorde spontanément toute son attention au discours, donc à la rhétorique. Mais s'il n'en est pas ainsi, malgré lui, il faut lui forcer la main, en considérant que ceux qui ont déjà abandonné les discours se sentent maintenant honteux et misérables. » Alors, l'un des plus virulents opposants à cette nouvelle culture, hein, qu'il juge d'ailleurs comme une espèce d'anticulture ou de sous-culture, eh bien, c'est le correspondant de cette lettre, le rhéteur Libanios, qui tient une école de rhétorique à Antioche et qui n'a cessé de déplorer la mutation culturelle qui se produit autour de lui dans tous ses écrits, lettres, discours, etc., au point même qu'il en vient à rêver, dit-il à l'empereur lui-même, d'une loi selon laquelle eh bien, on ne s'instruira pas en des disciplines propres à vous rendre étrangers aux travaux des curies, mais en celles qui feront suivre la même voie que les ancêtres qui n'avaient point d'autre ambition que de porter secours à leur patrie en usant de la langue grecque. Et là, vous voyez que dans cette phrase, il oppose les compétences propres aux fonctionnaires de l'administration impériale, le latin, le droit, la tachygraphie, comme on l'a vu déjà. Il les oppose à l'éloquence des débats des curies, hein, des boulailles, ces fameuses curies où se retrouve l'aristocratie municipale formée selon l'éducation classique grecque. Par ailleurs, pour illustrer cette réaction de Libanios à cette culture de fonctionnaire, eh bien je me limiterai ici au discours 62 datable du début de la décennie 380, dans lequel Libanios répond aux critiques que les partisans de cette culture de fonctionnaires ont faites l'encontre de son système éducatif, système qui prône l'enseignement d'une rhétorique fidèle à l'idéal de la païdéia classique. Cet idéal a été, nous dit-il, dès le début battu en brèche par Constance II. Constance II qui s'entoura, nous dit-il, d'un ramassis de barbares et d'eunuques voyous qui harcelèrent par tous les moyens l'éducation rhétorique, humiliant ceux qui en bénéficiaient et qui, à l'inverse, élevèrent au rang de sénateurs des secrétaires, donc des tachygraphes, des sténographes, qui ne valaient pas mieux que leurs propres esclaves, ni pour l'intelligence, ni pour l'habileté manuelle. Mais les eunuques méprisables et ivrognes devinrent si insolents et si arrogants qu'ils promurent les secrétaires aux chaires des préfets et les y installèrent. Cela créa, selon Libanios, un découragement chez les étudiants de la filière traditionnelle. Lorsque les élèves des écoles voient cela, crois-tu qu'ils ne se sont souvent dit « Quel est l'intérêt pour moi de ces innombrables travaux où je dois passer par l'étude de nombreux poètes, de nombreux orateurs, toutes sortes d'écrits, si le résultat de mes efforts est que je me traîne dans le déshonneur alors qu'un autre connaît le succès ?» Et pourquoi ne parler que des étudiants ? C'est à partir de ces réflexions que leurs pères, des hommes qui ont travaillé dans la rhétorique, qui ont commencé à élever leurs fils en combinant la rhétorique et son alternative, c'est-à-dire les métiers liés au droit, et en respectant la gloire de l'éloquence, mais en voyant la puissance qui réside dans l'autre système, Et là, vous avez un jeu de mots, parce que le mot puissance qu'il utilise, c'est Romé, la force, mais Romé, c'est aussi Rome, et qui est le symbole de cette culture alternative. Ils étaient personnellement pénalisés par rapport à l'autre système, continue-t-il, à cause de leur formation rhétorique, et ils ont semé le découragement chez les autres sous prétexte que l'éloquence n'était pas une formation adéquate pour réussir. Après le contexte politique, Libanios s'en prend ensuite à ce qui, selon lui, a été le plus grand frein au prestige de l'enseignement littéraire, l'enseignement du droit. Jusqu'ici, on voyait, nous dit-il, les jeunes gens des ateliers, ergastérion, donc les jeunes qui apprennent un métier artisanal, comme ceux dont je vous ai parlé au premier cours, préoccupés de leur pain quotidien. On les voyait aller en Phénicie pour acquérir une connaissance du droit, tandis que ceux des maisons aisées, ayant une famille illustre, des biens et des pères qui avaient accompli des liturgies, donc des services civiques, restaient chez nous. Quand il dit chez nous, ça veut dire dans mon école, dans notre école. On pensait qu'apprendre le droit était la marque d'un statut inférieur, alors que ne pas en avoir besoin indiquait un statut supérieur. Mais maintenant, il y a une ruée massive vers le droit et les jeunes qui savent parler et qui sont capables d'émouvoir un auditoire courent à Beyrouth, en Phénicie, qui est la capitale des études juridiques, avec l'idée d'obtenir un avantage. Libanios voit dans ce changement un manque d'autorité des parents qui ne sont plus capables de convaincre leurs enfants de la nécessité de respecter la tradition. Bref, tout va à volo. La jeunesse, au lieu de se former à la rhétorique, quintessence de la paella classique, et de passer ensuite le flambeau génération future grâce à l'enseignement, préfère se ruer vers des métiers lucratifs ou, en se spécialisant dans des professions liées au droit et à la fonction publique, elle abdique l'idéal de la culture traditionnelle. En plus, cette même fonction publique, selon Libanios, s'est dénaturée en privilégiant une bureaucratie technique, et notamment une bureaucratie tournée vers l'administration fiscale. Elle s'est dénaturée donc en privilégiant cette technicité à une activité qui puise ses ressources dans le discours et donc le raisonnement, et notamment dans l'administration judiciaire. Alors, cette opposition administration fiscale-administration judiciaire, on va la retrouver dans le passage suivant. L'activité des gouverneurs, et là le terme qui est utilisé c'est le mot juge, car le gouverneur est le juge par excellence, l'activité des gouverneurs en matière de perception des impôts et le fait qu'ils consacrent une brève partie de la journée aux actions en justice alors que le plus clair de leur temps est consacré à l'étranglement, au harcèlement des débiteurs, ont banni les longs et beaux discours et ont rendu la véritable fonction de l'orateur inopportune. Qu'un homme entreprenne un récit ou apporte quelques arguments mûrement réfléchis, il paraît radoter et perdre son temps. En revanche, les ignorants, les gens ordinaires, ne valant pas mieux que les garçons de rue, qui instruisent sur les affaires pour lesquelles ils comparaissent, davantage par des gestes que par l'harmonie de la voix, ceux-là, on en a fait des gens puissants. Mais si la situation était demeurée conforme aux anciennes coutumes, et si le gouverneur ou le juge exiger un discours bien composé et renvoyer de nouveau chez le maître celui qui n'était pas capable de le faire, tu verrais tous nos élèves assaillis par ceux qui ont besoin d'assistance et ne pas suffire à la multitude de ceux qui demandent être défendus. Mais à présent, l'incapacité à parler constitue un avantage, tandis que savoir bien pratiquer l'art oratoire devient un motif de reproche. Que personne donc ne juge le plus authentique orateur à l'aune de ses honoraires, mais à la maîtrise de l'art. Mais si tu me demandes de regarder l'argent qu'ils gagnent, moi je te demande de regarder leur âme, qu'ils ont rendue barbare, en pratiquant notamment ce type de métier qui, on nous dit, Libanios, on se détourne de l'idéal grec et on devient un barbare. Car ceux dont nous nous moquons chez le maître d'école, ce sont eux qui passent maintenant pour des techniciens, et le mot grec qui est utilisé est technitai, hein, donc l'artisan, le possesseur d'une technique, sont ceux qui passent maintenant pour des techniciens en matière de procès et qui chaque jour rentrent chez eux les mains remplies d'or. Aussi, en est-on arrivé à ne voir dans les enseignements que des machines à produire, dans les enseignants, que des machines à produire des fonctionnaires, au point que on les juge, ces mêmes enseignants, en fonction de leur palmarès en la matière. C'est ce que nous dit Libanios un petit peu plus loin. Il y en a aussi qui comptent parmi les élèves de tel ou tel professeur ceux qui ont exercé des magistratures. 10 pour l'un, davantage pour un autre, 20 pour un troisième. Et toi ? Nous demande-t-il, combien de provinces, grâce à ton enseignement, t'as administré tes élèves ? Comme si accéder à une magistrature était un objectif de la rhétorique. Si j'admets que la rhétorique est nécessaire à ceux qui veulent bien gouverner, le fait d'avoir obtenu le gouvernement des cités ne constitue cependant pas une preuve que l'on possède la rhétorique. Car on peut recevoir une magistrature sans être orateur, et ne pas la recevoir en l'étant. Et il s'agit là de dons de la fortune, non des éléments qui relèvent de la nature de l'art. Et Libanios d'enchaîner à nouveau sur la critique du règne de Constance II qui recrutait les préfets dans la classe des tachygraphes, etc., etc. Alors, ce plaidoyer, hein, pro domo, qui est en même temps une attaque en règle de la culture technique et bureaucratique, en train de se mettre en place et d'attirer à elle de plus en plus d'étudiants, eh bien, est un petit peu, va à l'encontre du sens de l'histoire. Libanios s'en rend d'ailleurs bien compte, lui qui met tout son talent d'orateur à attaquer sans concession cette culture de fonctionnaire dans ses discours, n'en montre pas moins une forme d'acceptation de la situation dans sa correspondance. Il n'hésite pas à recommander tel étudiant qui souhaite s'engager dans les études de droit, et même par pragmatisme, il va jusqu'à essayer de faire d'Antioche un pôle éducatif autonome en y implantant l'étude du droit. Certains de ses collègues ont eu des attitudes plus ambiguës. Ainsi, le rhéteur et philosophe paphlagonien Thémistios, donc nous sommes au IVe siècle toujours, tout en considérant que le statut de fonctionnaire soldat de l'État est incompatible avec celui de philosophe, indépendant de l'État, finit par accepter un poste de préfet de Constantinople en 384 à la demande de l'empereur Théodose, ce qui suscita raillerie et polémique chez ses contemporains. Par exemple, nous avons une épigramme du poète Palladios qui se moque des ambitions politiques de Thémistios. Installé tout là-haut sur un char céleste, tu en es venu à désirer un char d'argent. Oh, honte incommensurable! Tu étais naguère bien meilleur et tu t'es ravalé bien bas. Reviens, regagne ton humble position, car maintenant, à cette hauteur, tu t'abaisses. D'autres tenteront une synthèse entre la païdéia grecque traditionnelle et la culture de fonctionnaires. C'est le cas du philosophe et évêque Synésios de Cyrène, à travers une œuvre, notamment à travers une œuvre intitulée « Récits égyptiens », qui porte aussi l'autre titre de « La Providence », qui transpose dans la Thèbe des anciens égyptiens la situation politique contemporaine, en l'occurrence les luttes de pouvoir entre Aurelianus et son frère Eutychianus. Alors que raconte cette œuvre ? Eh bien, le roi d'Égypte meurt en laissant deux héritiers, Osiris, qui est en fait Aurelianus, et Typhon, hein, le 7 des anciens Égyptiens, qui est Eutychianus. Le premier, nous dit Synésios, est possédé du désir d'apprendre, attiré par les études désintéressées, tandis que le second les considère comme le propre des hommes paresseux et serviles, hein, critique justement qui est faite par les vieux Romains contre les Grecs. Osiris devient préfet de Thèbes et président de la boulée, hein, de la curie, du Sénat, centre, je vous l'ai dit, du pouvoir des cités, tenu par l'élite grecque, tandis que Typhon administre évidemment le fisc en exploitant les contribuables sous la pression du pouvoir central. Et on retrouve la critique que formulait Libanios à l'égard des gouverneurs accaparés par la perception des impôts réclamés par le pouvoir central. Osiris gouverne en Hélène et soutient la culture, mais il néglige l'armée et refuse d'utiliser la force. Eh bien, Typhon profite de l'affaiblissement de l'État qu'entraîne cette attitude pour usurper le pouvoir et prendre la place d'Osiris grâce au soutien d'un chef barbare. Barbare, évidemment. Mais il ne peut s'empêcher d'exploiter le peuple qui finit par se révolter. Osiris revient au pouvoir et va tirer la leçon du passé et adapter sa conception du politique à la réalité et à tout son cortège d'exigences. Ce compromis, eh bien, c'est la synthèse que propose Synésios en prenant un hellénisme qui s'ouvre à des domaines qui lui sont traditionnellement étrangers, l'armée et l'administration. Les deux facettes de l'État, se déclinant en deux militiae, selon la conception du pouvoir dans l'Antiquité tardive, la militia armata, l'armée, et la militia officialis, l'administration civile. L'homme cultivé, le Pépaï de Ménos, loin de se retirer sur son Aventin, doit descendre dans l'arène politique, et s'impliquer dans ces domaines qui bénéficieront de sa capacité à bien raisonner et à bien parler. La culture cesse alors d'être désintéressée, mais l'hellénisme pénètre ainsi la sphère du pouvoir. Alors le contexte que je viens de brosser rapidement peut en partie expliquer le silence des sources littéraires grecques sur l'éducation professionnelle, cette éducation qui n'inculque pas un savoir généraliste et désintéressé, mais une spécialité bornée et rémunératrice qui vise non pas à l'édification éthique et intellectuelle de l'individu, mais à l'apprentissage d'une technique si étrangère à l'esprit de la païdéia grecque. Bref, qui ne façonne pas des esprits libres, mais qui forme des exécutants. Le silence de nos sources serait donc pour une part le résultat d'une prévention général, typiquement grec, qui aurait conduit les auteurs à se désintéresser de cette forme d'enseignement. Mais pas seulement. Si les sources littéraires sont peu loquaces, les sources papyrologiques devraient nous être infiniment plus utiles sur le sujet en nous livrant des exercices d'apprentissage, de copiste ou de clerc, de même que ces mêmes sources ont livré des centaines d'exercices d'écoliers, comme nous l'avons vu les années précédentes. Et pourtant, leur analyse a souffert d'un biais qui a entravé l'interprétation. Les prédécesseurs ont été tentés de voir des exercices d'école classique ou d'école généraliste dans ce qui relève en fait d'école professionnelle. Je voudrais me limiter à deux exemples. Les fouilles du monastère de Der el-Ghizaz, anciennement connu sous le nom de Fell ou d'Appa Samuel, ou Samuel de Fell, vous voyez où ça se trouve, c'est un petit peu au-dessus de Thèbes. Ces fouilles de ce monastère, qui a été fondé au VIe siècle, ont livré plusieurs ostracas des VIe, VIIe siècles, qui ont été édités des années après par Anna di Bitonto Casser, comme étant des textes scolaires. Vous voyez, un ostracone dans lequel a été inscrite une courte liste de noms propres, célèbres, du type de ceux que le maître d'école utilisait après l'alphabet et le syllabaire pour apprendre aux élèves les rudiments de l'écriture. On a déjà eu l'occasion de voir ce type d'exercice. Et justement, après ces noms, vous avez un alphabet, alpha, beta, gamma, écrit d'une main, comme vous le voyez, assez peu experte. Un autre ostracone qui est couverte d'un syllabaire, et enfin un troisième contenant des lettres répétées plusieurs fois dans l'ordre alphabétique, de alpha jusqu'à theta, mais l'ostracode est cassé, il devait y avoir plus ensuite. Alors les deux premiers qui partent, soit l'écriture, soit le type d'exercice, se rattachent à l'enseignement du grammatiste, du maître d'école élémentaire, pourraient inciter à voir dans le troisième les tentatives d'un apprentissage des lettres par un élève apprenant à écrire. C'est l'interprétation qu'en donne l'éditrice. Mais l'examen de l'image la rend caduque. Les lettres ne sont pas celles qu'on attend de la part d'un débutant. Vous voyez qu'elles font montre d'un certain maniérisme, notamment avec des empattements à l'extrémité de certaines lettres. Et vous voyez qu'il y a aussi des jeux de plus ou moins de plein et de délié, ce qui font que elles sont plutôt caractéristiques d'un style d'écriture calligraphique. Ce style d'écriture est appelé la majuscule biblique, car il est utilisé pendant des siècles pour la copie de textes littéraires, notamment chrétiens. C'est par exemple le style d'écriture qui est utilisé dans un manuscrit célèbre biblique, qui est le Sinaiticus. Alors, j'aurai l'occasion de vous en montrer beaucoup d'autres exemples. Bref, notre ostracode, loin d'être un exercice d'écolier, est, selon moi, un exercice d'apprenti copiste. Alors, mon second exemple est le pendant documentaire du premier. Il s'agit d'un ostracode qui a été trouvé au monastère d'Épiphane, donc nous sommes sur la rive ouest de Thèbes, qui présente un alphabet qui est suivi d'une phrase dans la même écriture. Raffaella Cribiore a inclus dans son corpus des textes scolaires ce texte, considérant qu'il s'agissait d'un modèle d'écriture. Or, il s'agit là d'une écriture très cursive, qui n'est absolument pas du genre de celle enseignée aux élèves qui apprennent à écrire. Et d'ailleurs, vous pourrez remarquer que le nu a une forme très bizarre, avec un élément supplémentaire que l'on trouve dans certaines formes de cursive extrêmement élégantes. Donc, il ne s'agit pas du tout du style d'écriture enseigné à un élève débutant, mais plutôt d'un style d'écriture qu'on attend d'un secrétaire de bureau ou d'un notaire. On a été tenté aussi de voir dans des exercices d'apprenti secrétaire ou notaire, des réalisations de professionnels aguerris. C'est le cas des tablettes comportant des textes juridiques, comme celle aujourd'hui au Vatican et datant du 7e siècle, qui contiennent des contrats grecs et coptes relatifs à des personnes habitant principalement dans le nome Oxyrhynchite. Les éditeurs ont eux-mêmes hésité sur la nature de ces textes, exercices scolaires ou extraits d'actes réels consignés sur des tablettes à des fins privées. Ils finissent par pencher pour une provenienza scolastica, provenance scolaire. Mais encore faut-il s'entendre sur ce terme, école classique ou école professionnelle. Or, là encore, les éditeurs semblent n'être prêts à envisager que la possibilité d'exercice de copie qu'un maître d'école aurait proposé à des élèves en remplaçant les textes littéraires par, nous dit-il, des formules et des situations plus proches de la réalité. Comme si l'enseignement se limitait à l'école primaire ou à l'école secondaire. Quand l'hypothèse d'acte réel est privilégiée, plusieurs modalités sont envisagées correspondant à diverses phases de rédaction. Dans l'ordre chronologique de ces phases, eh bien, on a interprété certaines de ces tablettes comme des modèles utilisés pour la rédaction d'un texte réel, soit d'une lettre, soit d'un acte juridique. Par exemple, la tablette que vous avez à l'écran contient des parties de trois contrats, une location, une vente et une reconnaissance de dette. Le dernier éditeur, Amphilochios Papathomas, conclut sans hésitation à des textes modèles, moustotextes, qui auraient appartenu à un notaire ou à un écrivain professionnel ou à un secrétaire de grand domaine. Mais il y a bien trop d'éléments précis pour qu'il s'agisse d'un modèle. Un modèle, normalement, se doit d'évacuer le plus possible les éléments variables. Par ailleurs, le nombre de fautes, et là je vous mets la paracritique de l'édition, hein, qui signale toutes les fautes commises par le scripteur, eh bien, le nombre de fautes oriente bien plutôt vers un essai réalisé par un apprenti notaire. L'hypothèse des modèles a été aussi avancée par les éditeurs de volumes où se trouvent publiées les tablettes du Vatican que je vous ai rapidement montrées il y a quelques minutes. La difficulté de distinguer les modèles des exercices est, il est vrai, réelle. Et je dois dire qu'il nous manque une étude systématique des modèles et de leur écriture, à l'exception de l'étude, mais hélas très ancienne, de von Druffel, et qui n'a pas pu prendre en considération toute la documentation, évidemment, dont nous disposons aujourd'hui. Alors, on peut aussi proposer de voir dans les tablettes des brouillons. C'est le cas avec ce feuillet de papyrus contenant le début d'un contrat de location entre, je cite, Flavius Jean, par la grâce de Dieu, singularis de l'officium gouvernoral de Thébaïde, fils d'Anubion, de très pieuse mémoire, originaire de cette cité des Antinoïtes, d'un côté, et de l'autre, Aurelius, un tel, fils d'un tel, agriculteur, originaire, par la grâce de Dieu, de tel village du nom Hermopolite. Alors vous voyez que, à la place des noms, eh bien, on a utilisé l'indéterminé untel. Ce qui a poussé le premier éditeur, Ulrich Wilken, à y voir soit un brouillon, soit un document modèle. Ernst von Druffel, que je citais à l'instant, a rejeté l'hypothèse d'un modèle du fait des précisions qu'il contient. Vous avez le nom d'une des parties, son père, la durée de location la durée de la location, la date. Et donc, il y voit plutôt le brouillon d'un acte réel. En fait, et quoique malheureusement je ne puisse le prouver par l'écriture, en l'absence de l'image qui n'a pas été publiée, eh bien, je pense qu'il s'agit d'un exercice d'un apprenti notaire, ce qui expliquerait d'ailleurs l'erreur que nous avons dans le prescrit, c'est-à-dire dans la partie introductive de l'acte qui décline le nom, l'identité des deux parties. Le locataire a son nom au nominatif et le propriétaire au datif, alors que ça devrait être le contraire. Grossière erreur que n'aurait évidemment pas commise un notaire, même dans un brouillon. Enfin, on a interprété certaines tablettes comme des copies privées d'actes. Par exemple, celle que vous avez à l'écran, qui est partagée entre Malibu et Würzburg, qui contient sur ses deux faces un contrat de vente datant de 574. Alors, son éditeur y voyait la copie qui aurait été faite par le vendeur à Antinoopolis d'un contrat établi à Oxyrhynchos, puisque le formulaire est typique de ce nom, alors que la partie supérieure de la tablette, on le sait, a été retrouvée à Sheikhabada, qui est le village moderne, pas très loin du site d'Antinoopolis. Le vendeur, dans ce contrat, aurait éliminé de sa copie les éléments qui lui paraissaient inutiles, la date, description des propriétés bordant celles qu'il vendait, et les a remplacés par le mot « ta excess »,« kaita excess », etc. Pourtant, et d'ailleurs, il a aussi évacué la souscription des témoins. Pourtant, la date est un élément important dans un contrat et on comprend mal que le vendeur se soit fait une copie qui ne la mentionne pas. Par ailleurs, le nombre de fautes commises par le scripteur et qui sont signalées par des astérisques, et vous voyez qu'il y en a pas mal, phonétisme, omission de lettres, vous voyez même ici, vous avez dioi, il faut lire dikaiois, indique clairement qu'il s'agit d'un exercice d'apprenti notaire, ce que semble confirmer le support, une tablette de bois, et non un feuillet de papyrus qui aurait été plus approprié à l'archivage. En bref, il nous faut sortir de ce qui pourrait ressembler à un blocage épistémologique et reprendre l'ensemble du recueil des textes prétendument scolaires en prenant soin d'en examiner les originaux ou les images qui, malheureusement, manquent souvent dans les publications anciennes, car seule l'analyse paléographique permet de différencier un exercice relevant de l'école primaire des exercices d'apprentissage de l'écriture calligraphique, voire des entraînements calligraphiques d'un copiste confirmé. On doit alors si on fait ce travail, on voit se dessiner un abondant corpus qui, loin de documenter un enseignement scolaire du premier degré, celui du grammatiste, nous fait rentrer dans le quotidien d'un enseignement professionnel, même si la confusion entre les deux est parfois inévitable pour des raisons sur lesquelles je reviendrai à la fin de cette année. Ce corpus dessine les contours de ce chapitre oublié des études sur l'éducation, et je vous invite à le feuilleter de façon à nous faire une idée plus nette des formations dispensées aux futurs professionnels de l'écrit et des méthodes pédagogiques suivies. Alors, pour feuilleter ce chapitre, je vous propose de mener une enquête qui ne passera pas en revue les différents métiers, trop difficile à séparer du fait, évidemment, d'inévitables recoupements, mais qui partira des compétences de base nécessaires à chacun, telles qu'elles sont enseignées d'après les exercices à notre disposition. Ainsi, les chiffres, les lettres, les langues, peut-être je devrais dire les écritures, parce qu'on verra que ce n'est pas toujours uniquement des langues, et les formules. Chacune de ces compétences correspond à des métiers différents qui ne sont pas toujours faciles, je le disais, à distinguer, en partant des exercices eux-mêmes et qui pouvaient évidemment se combiner, comme nous aurons l'occasion de le voir. Alors, l'école traditionnelle ne préparait pas aux aspects les plus concrets de la gestion et de l'administration, pris dans son sens large, comme savoir tenir une comptabilité ou savoir écrire certains types d'actes. Autant de compétences qui pouvaient mener au métier d'intendant, gestionnaire, d'entreprise ou de domaine, ou à celui d'agent de la fonction publique. Et je vous signale que les deux tenaient à se rapprocher durant l'Antiquité tardive, où les grands domaines s'apparentent, évidemment, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de plus en plus à des institutions semi-publiques qui endossent de nombreuses responsabilités administratives pour le compte de l'État. Alors, les réformes de Dioclétien et de Constantin, poursuivies par leurs successeurs, conduisent, comme je vous l'ai déjà dit, à augmenter le volume des fonctionnaires et à exiger d'eux de nouvelles compétences, notamment dans le domaine de la comptabilité. Les besoins en personnel capable de manier les chiffres, de gérer des opérations de nature fiscale ou économique, qui n'ont cessé de croître. Le développement des grands domaines, en grec les oikoi, en latin domus, à la faveur de la concentration des terres, suscite une demande de plus en plus forte en intendants, en gestionnaires ou administrateurs de toutes sortes, tout comme l'accroissement des activités économiques des cités au IIIe, IVe siècle. L'augmentation des volumes d'investissement requiert sans cesse plus d'agents spécialisés. La figure du manager ou de l'intendant, en grec vous avez toute une série de mots pour désigner ce type de profil, dioikétès, prontistès, pronoétès, épitropos, épimélétès, et il y en a d'autres, eh bien cette figure prend ainsi de plus en plus d'importance. Les compétences exigées de ces agents sont multiples et ne se réduisent pas à savoir manier des chiffres. Dans le domaine des lettres, ils doivent savoir rédiger des lettres, ainsi que des actes juridiques de base, ceux qu'on pouvait être amené à écrire sans passer par un notaire professionnel, comme les contrats de prêt, les locations, des ventes à terme, je reviendrai sur ce type de contrat. Ils doivent même apprendre les multiples styles d'écriture qui correspondent à la rédaction de ces divers documents. Mais c'est surtout le domaine des chiffres qui leur confère un profil spécifique pour lequel ils étaient recherchés. Ils doivent dominer les règles de la comptabilité et être à l'aise avec les opérations permettant de calculer les montants des locations et des impôts, par exemple à répartir parmi les employés d'un domaine, les volumes de matériaux et de main-d'œuvre pour des travaux, etc., etc., etc. C'est d'ailleurs leur compétence dans le monde des chiffres qui nous permet aujourd'hui d'identifier les documents relatifs à leur formation, car les autres, hein, rédaction de lettres ou rédaction d'actes juridiques, sont partagés par bien d'autres professions, comme les secrétaires de bureau ou comme les notaires, que nous aurons l'occasion d'examiner par la suite. Il est vrai aussi que les notaires ou certains fonctionnaires se devaient d'avoir des compétences également en calcul, ce qui ne rend pas toujours aisé l'identification du type de métier auquel ont choisi de se former les apprentis dont nous étudions aujourd'hui les cahiers de cours ou autres exercices. Conscient de ces difficultés méthodologiques, essayons malgré tout de traquer à travers la documentation papyrologique les apprentis qui, comme vous vous souvenez, Pierre, fils de Dioscor, dont nous avons parlé il y a 2 semaines, ont choisi de se former à la comptabilité en même temps qu'à d'autres savoir-faire nécessaires pour rentrer dans le monde du management ou, pour le dire en français, de la gestion. Alors la tâche n'est pas aisée. Un des obstacles tient à la difficulté de faire la différence entre des exercices et des documents réels, quand il s'agit de textes du genre de ceux que peut pratiquer un intendant, comme on l'a vu, comptabilité, lettres et documents juridiques. Alors pour surmonter cet obstacle, je me limiterai à des textes transmis par des tablettes soit isolées, soit parvenues sous la forme de codex, tablettes puisque ce support est a priori typique de l'enseignement. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines, car on rencontre d'autres difficultés qui tiennent à la façon dont ce matériel a été édité et ensuite répertorié dans les outils comme la Duke Data Bank of Documentary Papyri, sur papyri.info, ou Trismegistos, qui sont deux bases absolument essentielles dans notre métier de papyrologue. Alors prenons l'exemple de cette tablette du Vatican, écrite au début du 7e siècle, sur les deux faces, et éditée dans un volume appelé T varié, tavolette T de provenance variée, sous les numéros 7 et 8. À chaque face a été donné, comme vous le voyez, c'est la même tablette, à chaque face a été donné un numéro de publication différent, 7 et 8. Système suivi dans tout le volume et qui s'avère catastrophique, car au lieu de marquer une unité textuelle indépendante, qu'elle soit constituée d'un texte ou de plusieurs textes écrits à la suite, eh bien, le numéro de publication marque tantôt, dans cette publication, la face d'une tablette, tantôt la tablette d'un codex constitué de plusieurs tablettes au détriment de la continuité des tablettes qui forment un tout. Alors, reprenant la numérotation de l'édition, eh bien, Trismégistos a donné à son tour un numéro différent à chacune des faces traitées dans deux pages différentes. Donc vous voyez le numéro 65-353 et le numéro 21-033. Enfin, papyri.info a enregistré la face B qui contient le texte d'un document juridique, mais non la face A qui contient un exercice arithmétique, puisqu'il s'agit en fait d'une banque qui ne contient que des textes documentaires. Tout a été fait pour que les deux faces soient considérées comme des textes non seulement de contenu différent, mais sans aucun lien entre eux, et donc rédigés dans des ambiances différentes. Mais est-ce vraiment le cas ? On ne peut oublier qu'on a affaire à deux textes écrits sur le même objet. Et c'est précisément parce que ces textes sont différents qu'ils dessinent un contexte de rédaction qui, justement, peut nous intéresser. Alors, regardons-les de près. La face A donne des tables de fractions, tandis que la face B donne un acte de vente à terme ou vente anticipée de vin, ce que les Anglais appellent « sale on delivery » ou les Italiens « vendita a termine ». C'est vrai qu'a priori, les deux textes sont très différents. Le premier pourrait entrer dans le type d'exercice d'arithmétique pratiqué à l'école, apprenez effectivement les fractions à l'école, tandis que le second cadrerait mieux avec le travail d'un notaire. Les éditeurs concluent d'ailleurs au sujet de ce dernier texte qu'il pourrait s'agir d'un acte réel et non d'une copie privée ou d'un simple exercice scolaire. Du reste, l'écriture des deux textes n'est pas la même. Celle des tables de fraction est une cursive droite, alors que celle de la vente est une cursive très inclinée. Mais est-ce là un argument pour en conclure que les deux faces sont écrites par deux personnes différentes, à deux moments différents, avec deux objectifs différents? Je ne le crois pas. Il faut que vous ayez à l'esprit que l'on n'écrivait pas de la même façon des textes arithmétiques ou comptables, autrement dit des textes qui sont essentiellement constitués de chiffres, et des textes suivis comme des lettres ou des contrats. Les premiers, pour la lisibilité des chiffres et des symboles qui les accompagnent, privilégient un style d'écriture droit, sans appendices montant ou descendant, trop fleuri, alors que les seconds, surtout quand il s'agit d'actes juridiques, adoptent à cette époque une écriture inclinée et relativement recherchée. Je n'affirme pas pour autant que les deux faces ont été écrites par la même personne, mais rien ne permet de l'infirmer catégoriquement, ni si elles ont été écrites par deux personnes différentes, de différencier de façon tranchée leur profil de compétences, en affirmant, par exemple, que l'un serait un élève et l'autre un notaire. Notons d'ailleurs que le texte du contrat contient des bourdes qu'un notaire professionnel n'aurait pas commises. Il orthographie mal le nom d'une des parties, le vendeur, il écrit « Erné » au lieu de « Cerné ». Par ailleurs, de nombreux mots sont estropiés par l'omission d'une ou plusieurs lettres, notamment dans des parties très importantes comme les dates. Hein, par exemple, ici vous avez Eutychus tes decates, qu'il faut lire Eutychus trites kai decates, hein, pour pour la vendange de l'heureuse 13e indiction. C'est un peu comme si en français, on écrivait pour la yem indiction. Voilà, c'est... Enfin, on remarquera que les lignes ont été réglées hein, par des incisions qui sont pratiquées avec à sec dans l'enduit de la tablette, ce qui avait pour but d'aider celui qui écrivait, pour éviter les lignes qui montent et qui descendent. Ce n'est certainement pas ce qu'on attendrait dans le brouillon d'un notaire professionnel, mais cela oriente vers une ambiance d'apprentissage. En même temps, on notera que l'écriture est aisée. On a donc affaire non à un écolier qui apprendrait à écrire à partir d'un document, à la place d'un texte littéraire, mais d'un apprenti qui a été formé depuis longtemps à lire et à écrire et qui s'initie là, non à l'écriture, mais à la rédaction de documents. Alors, si l'on s'oblige à considérer les deux faces ensemble, ce qui me semble être évidemment de bonne méthode, eh bien, nous sommes tentés de voir dans ces textes des entraînements réalisés par un ou deux apprentis intendants se destinant à la gestion de domaines agricoles. Celles-ci nécessitaient la connaissance des fractions pour les diverses opérations économiques qu'elles impliquaient, et en même temps la maîtrise du formulaire de certains actes que les intendants pouvaient être amenés à rédiger eux-mêmes, comme précisément la vente à terme, qui se présente comme une sorte de reconnaissance de dette dans laquelle le vendeur reconnaît avoir reçu une somme compris d'une quantité précise de marchandises qu'il s'engage à livrer lorsque celle-ci sera disponible. C'est une transaction qui était très fréquente à partir du IVe siècle et qui trahit le manque de capitaux chroniques dans la paysannerie égyptienne, manque de capitaux dont certains entrepreneurs agricoles, évidemment, cherchent ou chercheront à tirer profit. Alors, le mélange de textes que nous trouvons dans cette tablette, eh bien, se retrouve dans d'autres tablettes qui orientent aussi vers un faciès d'enseignement assez semblable. Alors, je voudrais vous en donner juste quelques exemples. Voilà une tablette cirée, écrite au 6e, 7e siècle, aujourd'hui dans la collection Skoyen, qui comprend aussi sur une face un texte juridique, un contrat de prêt, écrit dans une cursive claire et régulière, mais dans une orthographe à faire frémir un notaire professionnel. Et sur l'autre face, eh bien, des tables de multiplication, ainsi que trois lignes que l'éditeur n'a pas pu déchiffrer. Autre exemple, avec ce codex de deux tablettes écrites à l'encre à la même époque, qui comprend sur la première un reçu pour des paires de porcelets dans des écritures différentes, et sur la seconde, des tables de fraction et des tables de multiplication. Alors les reçus, justement, sont typiquement le genre de texte qu'un intendant devait savoir rédiger. Troisième exemple, avec ce codex de six tablettes cirées, écrites au VIe siècle, qui comprend, là encore, des textes juridiques. Vous voyez, il y a un contrat de location de terrain, un contrat de vente de terrain. Et s'y ajoutent des fractions et des exercices touchant à la surface de terrain. Les terrains sont délimités par des côtés dont les mesures sont données toujours dans l'ordre sud, nord, est, ouest, qui est l'ordre adopté dans les textes juridiques quand il s'agit de décrire un bien immobilier ou un terrain, suivi d'une superficie. Les éditeurs y voient des exercices de géométrie, hein, géométrie au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de mesure de terrain. Et vous avez enfin, toujours dans ce même codex, un exercice de géométrie qui concerne un thésauros, c'est-à-dire un grenier, principalement un grenier à céréales. Mais malheureusement, le texte est rendu obscur par l'état de la tablette. Alors, il est difficile d'affirmer que ces textes sont écrits par la même personne, du fait justement du craquellement de la surface en cire qui entrave l'analyse paléographique. On a là, en tout cas, des exercices qui correspondent parfaitement à ceux que devaient pratiquer les apprentis intendants, puisqu'ils concernent tous la vie économique d'un domaine agricole. Et je voudrais terminer par un ensemble de trois tablettes écrites à l'encre, conservées à Yale, qui a été récemment publiée. Elles sont toutes du 7e siècle et nous offrent une série de textes aux faciès très proches des textes isolés que je viens de vous présenter. Quoique n'étant pas issues du même codex, elles ont de fortes chances de provenir du même endroit, car les textes qu'elles contiennent citent tous des noms de lieux qui appartiennent au nome oxyrhynchite, et notamment le village de Palosis, dont j'aurai l'occasion de reparler. Et les mains de la tablette 186, 188, 190 et 192 pourraient même appartenir au même individu. Alors, regardons la première. C'est une tablette écrite à l'encre vers 602 qui contient sur une face un reçu d'annonce civile dans une écriture assez peu professionnelle et avec des fautes sur les mots techniques. Et notamment, vous avez une très grosse faute qui est sur le verbe kata balo, qui veut dire verser en l'occurrence une somme ou une quantité de blé. Et là, vous voyez qu'il a interverti deux lettres, il a écrit kate labé. C'est-à-dire, c'est exactement le contraire. Ça veut dire en grec à peu près le contraire. Recevoir au lieu de verser. Et sur l'autre face, eh bien, vous avez, là encore, des tables de chiffres, en l'occurrence des tables de multiplication. La tablette suivante est écrite à l'encre, de même contenu que les tablettes du Vatican que je vous ai montrées, à savoir sur une face, une vente à terme de filasse de lin, rédigé dans une écriture très maîtrisée, contrairement à la langue qui est très fautive. Voyez, ce paradoxe, nous le voyons nous suivre constamment. Hein, et sur l'autre, de la même main, des tables de fraction. Et enfin, la tablette 188-189, écrite à l'encre, contenant sur une face une vente à terme, dans une cursive aisée, mais là encore avec des fautes, et sur l'autre face, la fin d'un document juridique en copte. Et le début d'une lettre en copte, hein, j'insiste bien sur le fait qu'on a affaire à du copte, dont chaque ligne semble avoir été recopiée par une autre main. Donc vous voyez, odieux, tout d'abord, c'est moi, Pamoun, qui écrit pour prendre des nouvelles, odieux, tout d'abord, voilà, etc. Lorsque j'ai reçu la lettre de votre lettre, et quelqu'un d'autre a recopié la phrase. Étant donné la différence de style d'écriture entre le grec et le copte, il n'est pas impossible qu'une des deux mains du verso soit la même main que celle du recto. Le grec avait un type d'écriture à cette époque qui était un style d'écriture qui était différent de celui du copte. Et donc la même personne pouvait écrire en grec et en copte dans des écritures qui semblent éloignées, mais en fait résultant du travail d'une même personne. Alors les tablettes que je vous ai présentées, de mains et d'époques variées, quoique circonscrivant surtout au 6e, 7e siècle, présentent toutes les mêmes caractéristiques. Elles livrent des textes écrits souvent dans des mains qui manient avec aisance la cursive des documents, ce qui implique que nous n'avons pas affaire à de simples écoliers, mais qui en même temps sont hérissés de fautes, ce qui montre que nous n'avons pas encore affaire à des professionnels maîtrisant la langue et maîtrisant le formulaire. Elle mêle des tables de fraction et de multiplication ou des exercices de géométrie à des essais de rédaction de documents juridiques relativement courts et élémentaires, notamment, on l'a vu, des reçus, des prêts, des ventes à terme. Autrement dit, elle vise à former à la maîtrise du calcul, dans ce qui est la plus pratique, notamment la mesure de surface de terrain, à la maîtrise de la rédaction de documents basiques tels qu'on doit les pratiquer quand on gère un domaine. Troisièmement, l'intérêt de la dernière tablette est de nous montrer la versatilité linguistique de cette formation qui ne se contente pas d'enseigner le formulaire grec, mais aussi le copte à une époque où cette langue est utilisée pour les lettres et de plus en plus pour les documents juridiques. Un intendant se devait donc de maîtriser les deux, d'autant plus qu'il avait affaire souvent à des paysans qui ne comprenaient que le copte. Alors jusqu'ici, nous n'avons entrevu l'enseignement professionnel dispensé à des personnes se destinant à la gestion qu'à travers des exercices sur une tablette ou sur des codex de plusieurs tablettes de longueur somme toute réduite, ne permettant pas une grande variété ni un grand nombre d'exercices. Souvent un exercice, ou souvent un, deux, voire trois textes juridiques, des tables arithmétiques de base, plus rarement des exercices de calcul appliqués, comme c'est le cas du codex où il était question d'exercices de calcul de terrain et de thésauroïde. Alors si ce mélange est suffisant, me semble-t-il, pour voir dans l'enseignement dont il résulte non une formation scolaire classique, mais une formation spécialisée, le corpus des textes est assez limité et ne permet pas d'avoir une idée très nette de l'ampleur de la formation reçue par nos apprentis managers. C'était en tout cas la situation jusqu'en 2019, date à laquelle Roger Bagnall et Alexander Jones ont publié une pièce tout à fait exceptionnelle qui vient révolutionner notre vision des exercices professionnels dans le domaine de la gestion. Mais je garde ça pour la semaine prochaine. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.